BFM Business, midi, leur H. Présenté par Edwige Chevrier.
Bonjour à tous, bienvenue dans leur H. Beaucoup de sujets hein, aujourd'hui. On va parler de mobilisation, avoir un discours positif. On en parlera avec Gilles Van Der Potten, il est le président de l'ONG Reporter d'Espoir. On parlera aussi, tiens, des entreprises familiales. On parlera des administrateurs, de raison d'être et peut-être de domiciliation patronale. Avec notre invité qui est déjà en studio avec nous, c'est Denis Thérien. Il est président de l'Institut français des administrateurs. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Et puis après, on reviendra bien sûr sur le pacte productif souhaité par le gouvernement. Et Bruno Le Maire, est-ce que ça va dans le bon sens? On en parlera avec Thibaut Béchetoile. Il est le nouveau président de Croissance Plus. Et on en parlera aussi avec Vincent Charlet, qui est directeur général de la Fabrique de l'Industrie. Mais pour l'instant, place à l'actu avec Thomas Asportas. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et l'heure de vérité approche pour le Brexit. Michel Barnier fixa ce soir la date limite pour un accord pour qu'il puisse ensuite être approuvé par les chefs d'État au Conseil européen de jeudi et vendredi. Et la situation est toujours aussi indécise, puisque le négociateur européen démarrait la journée en affirmant qu'un accord avec le Royaume-Uni est encore possible cette semaine, avant de se raviser quelques heures plus tard en déclarant que les dernières propositions britanniques ne sont pas suffisantes. L'Élysée résume la situation à ce stade. On ne peut pas dire si on sera capable d'avoir un accord ou non. Et puisqu'on parle du Brexit, on saura en début d'après-midi quel est son impact sur la croissance mondiale avec la publication des nouvelles prévisions du FMI. Des chiffres qui, comme pour l'OCDE, devraient être revus à la baisse. La semaine dernière, la nouvelle directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a affirmé que la guerre commerciale pourrait coûter jusqu'à 700 milliards de dollars à l'économie mondiale. Et puis en Allemagne, le moral des investisseurs continue de se dégrader, mais il a moins reculé que prévu au mois d'octobre, à moins 22,8 au lieu de moins 27. L'Institut Zoo déclare que le scepticisme est toujours aussi fort en Allemagne du fait des tensions commerciales. Retour en France avec cette réunion à Bercy, vous le disiez Edwige, autour des impôts de production. Bruno Le Maire lançait ce matin le pacte productif. Une concertation qui va durer 6 mois avec les élus et les partenaires sociaux pour définir une trajectoire de baisse de ces impôts. Mais dès la semaine dernière, à votre micro, Edwige, la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, s'engageait sur une baisse à 2 chiffres des impôts de production d'ici à 2025, date à laquelle Emmanuel Macron veut ramener le taux de chômage à 5%. En attendant, les créations d'entreprises ont progressé au mois de septembre de 4,2% après avoir reculé en août. Au total, 70 605 entreprises ont été créées en France le mois dernier, moitié entreprises classiques et moitié micro-entreprises. Sur les 12 derniers mois, les créations d'entreprises en France ont augmenté de 16,6%. Dans l'actualité des entreprises, l'EPR a finalement peut-être encore de beaux jours devant lui, puisque malgré les déboires récents à Flamanville et à Hinkley Point, le gouvernement demande à EDF de réfléchir à la mise en chantier de 6 nouveaux réacteurs. L'exécutif précise qu'il s'agit pour l'instant d'une hypothèse de travail. Sinon, le Libra avance envers et contre tout. L'association Libra, qui va être chargée de gérer la future monnaie virtuelle de Facebook, a été officiellement mise en place la nuit dernière à Genève. Il reste désormais 21 membres au sein de l'association après les départs de PayPal, Visa, Mastercard ou encore eBay. Le directeur général de l'association Libra, Bertrand Pérez, sera avec nous par téléphone dans leur H à 12h25. Et puis pour finir, c'est une mauvaise nouvelle pour Harley Davidson qui suspend la production et la livraison de sa moto électrique, la LiveWire, en cause d'un problème sur le chargement de la batterie électrique de la moto. Et c'est un coup dur pour Harley qui misait beaucoup jusqu'à présent sur l'électrique pour relancer des ventes en berne. BFM Business, il est midi 3, on retourne sur les marchés à la mi-journée. Le CAC 40 est légèrement dans le vert, on gagne 0,7%. À 5682 points. L'euro dollar recule un tout petit peu. On abandonne 0,14%. 1 euro s'échange pour 1 dollar 10,11.
Merci Thomas. Bien sûr, on vous retrouve à 12h30 et vous avez raison. Bertrand Pérez sera mon invité, le patron de l'association Libra. Il sera en direct de Genève. Ça sera grosso modo dans une vingtaine de minutes. Pour l'instant, la question, tiens, ben, on va parler des administrateurs. Est-ce que ça a beaucoup bougé, administrateurs, notamment les entreprises familiales? On sait que c'est difficile. Et puis, on parlera de domiciliation des patrons avec Denis Thérien. Tout de suite.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Question du jour avec vous, Denis Thérien. Merci encore d'être là. Vous êtes président de l'IFA, l'Institut français des administrateurs. Demain, c'est votre grande journée. Donc, il y a beaucoup de thèmes sur la table. Je voudrais peut-être commencer par ça, entre guillemets, la domiciliation des patrons. Ça pourrait être aux alentours de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. À partir duquel il faudra, lorsqu'on dirige une entreprise de cette taille, ça devait être 1 milliard, il faudra être absolument domicilié en France. Est-ce que pour vous, c'est un problème ?
Je ne sais pas si c'est un problème. Ça ne répond pas aux besoins des entreprises. Un dirigeant d'entreprise devrait être là où est son plus grand marché. Si jamais on a une société en France qui se porte bien, qui fait 100 ou 200 millions, et qu'après on décide d'acheter une société en Allemagne, par exemple, une société qui serait plus grande. Peut-être que le dirigeant d'entreprise de cette société voudrait être au plus près de ses clients en Allemagne, et cette loi l'empêcherait de faire ça. Donc, le nombre de dirigeants qui vont être impactés par ça, je n'ai pas le chiffre, je ne pense pas que ça soit nombreux. En revanche, je ne pense pas que ça soit un bon signal de tout réglementer. À un moment, on se demande si ce n'est pas un petit peu populiste de faire ça, au moment
vous
où la France, au contraire, essaye d'accueillir tout un tas d'entrepreneurs.
Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Surtout, je me demande mais si c'est conforme au droit européen. Mais ça, on verra ça une fois qu'on aura une commission européenne, une fois peut-être que le Brexit. Le Brexit, ça peut jouer au niveau des administrateurs. On sait qu'il y a beaucoup d'administrateurs, et notamment de femmes anglo-saxonnes. Est-ce que ça peut jouer ?
Je ne pense pas que ça n'aura d'effet. Les conseils d'administration sont ouverts à toutes les nationalités et toutes les personnes. Donc, ça n'aura pas d'impact sur les administrateurs.
On parlait de Bruno Le Maire à l'instant, sa loi Pacte. La raison d'être, les administrateurs, est-ce qu'ils ont été amenés à se prononcer souvent sur cette question ?
Alors, aujourd'hui, sur le 440, deux sociétés ont fait voter leur...
On est toujours à deux.
On est à deux. Les AG étaient en mai. Oui. En revanche, Bruno Le Maire a demandé à ce que toutes les sociétés qui sont détenues par l'État aient une raison d'être l'an prochain. Donc, je crois que ça va dans le très bon sens. Cette raison d'être, c'est définir ce qu'on appelle le purpose dans les sociétés anglaises. Et c'est une demande des clients et des employés.
Aujourd'hui, les... Oui, mais est-ce que les administrateurs sont saisis de ça ? Puisque vous représentez, à peu près, on peut dire ça comme ça, les administrateurs en France, est-ce qu'ils sont saisis de nombreuses définitions de raison d'être d'entreprise ?
Aujourd'hui, ce travail est lancé, absolument. Dans la majorité des sociétés, ce travail est lancé et je crois que c'est pour le mieux de l'entreprise.
Oui, d'accord. Mais on sent quand même que ce n'est pas forcément le sujet du jour. Hein. Alors, le sujet du jour, il y en a beaucoup, bien sûr, notamment sur l'engagement climatique, parce qu'avant c'était un peu comme la révolution digitale, c'est-à-dire c'était le DSI qui s'en occupait, le directeur des services informatiques. Avant c'était celui, donc là l'écologie était un peu reléguée au fond d'un organigramme. Maintenant, ce qui vous frappe en tous les cas, c'est que c'est vraiment au niveau de la direction que ça se passe, parce que ça engage une transformation d'entreprise derrière.
Ça engage une transformation du business model. Si jamais aujourd'hui je fais par exemple des tuyaux en PVC, je sais que si jamais il y a un sujet sur le pétrole ou sur l'énergie que je fais, un jour mon business model sera challengé. Donc à partir du moment où le climat impacte mon business model et donc la stratégie d'entreprise, oui, ça doit être un sujet du conseil d'administration. De même, l'élément de mesure qui n'est pas encore très bien défini, il est temps que les Européens arrivent à affirmer comment on va mesurer l'impact climatique que l'on a.
Oui, donc de ce point de vue-là, on a besoin... Il y a une mobilisation des administrateurs, en tout cas c'est le message que vous envoyez en tant que président de l'Institut des administrateurs.
Au sein de l'IFA, absolument. D'ailleurs, demain, qui est la journée des administrateurs, où nous avons à peu près 500 administrateurs qui vont venir et débattre des sujets qui nous préoccupent, nous allons parler et dévoiler les résultats d'un sondage que l'on a fait au sujet du climat. Aujourd'hui, il y a une ambivalence.
Vous pouvez nous en donner, puisque vous êtes là, vous pouvez nous en donner les grandes lignes quand même.
Il y a une ambivalence. D'un côté, tout le monde sent qu'il y a une urgence à agir. En revanche, les administrateurs ont besoin d'être formés et informés sur ce qui se passe sur le climat. Ça veut dire que il y a une notion, mais la prise en compte au niveau du Conseil n'est pas encore là. Je pense que les attentes viennent aujourd'hui des employés et des clients avant les instituts financiers.
Mais il dit quoi, grosso modo, sondage ?
Notre sondage révèle cette dichotomie entre, d'un côté, le sentiment d'urgence, de l'autre côté, ne pas savoir ce qu'il en est. Deuxièmement, il révèle aussi le fait que, étant donné que la plupart des personnes sont conscients que ça va impacter le business model, il faut que ce sujet remonte au niveau du conseil d'administration. De même, pour les mesures, le climat était généralement une notion de risque qui était vue par le comité d'audit, par exemple. Et aujourd'hui, ce n'est plus un risque vu par le comité d'audit. C'est au contraire une plateforme d'opportunité et de développement pour une business.
Oui. Donc ça, c'est un point très, très, très important. Est-ce que ça bouge un peu dans les conseils d'administration, notamment des PME familiales ?
Alors, les PME familiales ont quelque chose de particulier. Si jamais on regarde la performance des 5 dernières années, elles ont battu l'indice du SBF 120. Les 42 sociétés familiales ont battu l'indice. Ça veut dire que quelque part, dans les sociétés familiales, il y a des sujets de gouvernance différents. Le premier, c'est le long terme. Les sociétés familiales se projettent sur un plus long terme. Et
J'ai envie de dire, le premier, c'est qu'elles n'ont pas de conseil d'administration. Donc c'est souvent un homme qui a construit cette entreprise, dans tous les cas, qui l'a développée. Et donc, c'est peut-être pour ça que ça marche mieux, non ?
Ceci est faux, certes. on vient de faire un travail sur les ETI familiales, qui a été dirigé par deux femmes. La patronne des Galeries Lafayette et une des administrateurs du groupe Daher. Et ces deux personnes ont montré qu'au contraire, il y avait certains éléments qui faisaient que une société familiale pouvait surperformer. Un de ces éléments, c'était bien de séparer trois gouvernances. La gouvernance familiale, comment je gère ma famille. La gouvernance patrimoniale, comment je regarde le capital à moyen et long terme. Et après, la gouvernance opérationnelle, qui est ma stratégie d'entreprise de tous les jours. Les sociétés, les ETI familiales qui se développent très bien aussi, ont pris en leur sein des administrateurs indépendants qui permettent, dans le conseil, de dépassionner les débats et de regarder effectivement ce que mon entreprise...
Combien ? Parce que vous avez raison, hein, sur le fond, il faut des administrateurs indépendants. Alors, indépendants qui les choisissent, c'est toute la difficulté. Vous le savez mieux que moi. En l'occurrence, il y a combien d'administrateurs indépendants dans les entreprises familiales ? Vous avez fait le calcul ?
J'ai pas fait le calcul.
Au pourcentage,
je vous remercie,
si vous
mais à mon avis, c'est à peu près 30%, 30 à 40%
quand même,
de ces sociétés-là. Certaines sociétés même vont au-dessus de 50%. Je suis administrateur d'une société familiale dans laquelle la famille a 70%. Et dans le conseil d'administration, 60% des administrateurs sont hors famille. Et ça montre bien cette volonté de cette famille à s'ouvrir au monde extérieur, à se faire challenger, à dépassionner le débat. Et c'est intéressant, non seulement sur la définition de la stratégie, mais aussi, par exemple, sur les plans de succession. Hein, et sur la formation des familiaux, mais aussi la bonne adéquation entre le rôle d'un familial et le besoin de l'entreprise.
Oui. Quel est le profil type aujourd'hui d'administrateur en France ? Alors, je ne parle pas des grands groupes, on va rester au niveau des PME.
Oui. Alors, la France, là-dessus, est assez exemplaire. Et je dois reconnaître la loi Copé-Zimmermann qui a forcé une grande diversité. Et donc, on peut voir que nous avons cette diversité, non seulement dans les genres, mais on a aussi une très grande diversité dans les conseils français sur les générations. La moyenne d'âge des conseils en France est 10 ans inférieure à la moyenne d'âge des conseils aux États-Unis. Et il y a à peu près 10 à 15% des personnes qui ont en dessous de 40 ans, qui est absolument pas présent dans les autres dans les autres pays.
Oui, parce qu'il y a un enjeu quand même. Je reviens sur les entreprises familiales. Il y a un enjeu absolument énorme. Je crois qu'il y a 30 à 40% des ETI, ce que nous disait Philippe Dornano, qui est le président du métier et le patron de l'entreprise familiale Sisley. 30 à 40% des chefs d'entreprise qui vont passer la main là. Donc il y a un enjeu très important.
S'ouvrir à la succession est l'enjeu primaire, car c'est un des trois pouvoirs que l'on peut avoir. Il y a le pouvoir de détenir la société. Il y a le pouvoir d'agir et le pouvoir d'informer. Et sur ce pouvoir d'agir, effectivement, le conseil doit statuer au mieux sur qui est le plus à même de mener l'entreprise pour les prochains 10 à 15 ans. Et là, le familial, si jamais il a été bien formé, est un des candidats, mais avoir au sein du conseil d'administration et au sein du comité de nomination des administrateurs indépendants aide à poser la bonne question et challenger la famille.
Que pense le président de cet institut, donc français des administrateurs, je le répète pour la énième fois, l'IFA, du fonctionnement du conseil d'administration de Renault ? Parce que Renault, ils ont quand même nommé, alors que bon, on savait qu'il y avait un peu de contestation, Thierry Bolloré, parce qu'il était adoubé par Carlos Ghosn. Après, au moment de l'affaire Carlos Ghosn, entre guillemets, ils l'ont renouvelé, ils l'ont nommé directeur général et donc il a été validé par le conseil d'administration. Et puis là, d'un seul homme, enfin il y a trois abstentions, ils ont voté son éviction et c'est juste s'il a pu se défendre. Est-ce que c'est le fonctionnement idéal d'un conseil d'administration ?
Je ne vais pas faire un cas sur Renault spécifiquement. Mais ce qu'on peut
dommage.
Voir, c'est que quand des sociétés... C'est pas parce qu'on a très bonne gouvernance qu'on a toujours une bonne entreprise qui va bien. En revanche, très souvent, quand on a une entreprise qui a des difficultés, il y a en amont un problème de gouvernance. Et donc pour Renault, il y a eu effectivement un problème de gouvernance qui s'est fait avant l'ère actuelle. Et on est encore en train de pallier au sujet de la gouvernance, des problèmes de gouvernance qu'il y a eu il y a plusieurs années.
Oui, toute dernière question. Est-ce que c'est difficile quand l'État est administrateur? Ça brouille un peu les cartes.
Ça brouille la carte. Je me réjouis que Bruno Le Maire ait affirmé haut et fort que l'État allait se comporter comme un administrateur normal.
Oui, ce qu'a dit Agnès Pannier-Runacher ici. Oui, oui, c'est un grand scoop.
Absolument, c'est un scoop. Il est temps que ça se passe. Et aussi, mon rêve, c'est que tous les administrateurs qui représentent l'État soient aussi formés pour être de bons administrateurs.
Et j'en profite pour dire que justement, la semaine prochaine, Martin Vial, là, qui gère toutes ces participations de l'État, sera notre invité. Ça sera dans la matinale à 8h15. Merci beaucoup, Denis Thérien.
Merci
beaucoup. Demain, grande journée, président de l'Institut français des administrateurs. Dans un instant, c'est Gilles Van der Potten. Il est directeur de l'ONG Reporters d'Espoir. Il veut fabriquer un discours positif, mobilisant. Je pense qu'on en a un peu besoin. C'est pour ça que je lui ai demandé de venir dans le RH.
Bonjour Monsieur Wellman, vous êtes directeur d'une PME et amené à beaucoup voyager. Comment travaillez-vous en déplacement ?
Je ne me sépare jamais de mon PC portable HP EliteBook X360, un outil professionnel indispensable. J'enchaîne les rendez-vous, les réunions, sans jamais me poser de questions sur la batterie, parce qu'il a 17 heures d'autonomie et une recharge ultra rapide, 50% en seulement 30 minutes. C'est un vrai plus d'avoir cette liberté.
Et quels sont ses autres atouts ?
Sa simplicité et sa polyvalence avec son format convertible. Avec Windows 10 Pro et son écran tactile, je peux facilement annoter des documents au doigt ou à l'aide du stylet. Et aussi, grâce à mon HP EliteBook X360, je participe à des conférences audio ou vidéo, au bureau ou à distance. Les interlocuteurs n'entendent que l'essentiel avec ces micros équipés de filtres à réduction de bruit.
Plus d'infos sur hp.com/fr/business.
Auchan, et la vie change. Il y a des défis étonnants où il faut imiter le cri de la loutre dans un lieu public.
Regarde, madame.
Et pendant les 100 jours étonnants Auchan, il y a des défis encore plus étonnants, comme l'opération Mes défis Waouh, qui permet de cagnoter jusqu'à 50 euros sur ses marques préférées.
En ce moment, Auchan propose l'opération Mes défis Waouh. Rendez-vous vite sur Auchan.fr pour choisir vos défis et gagner jusqu'à 50 euros en cagnotte.
Auchan.
Jusqu'au 30 novembre. Détails de l'opération sur Auchan.fr.
Figaro Santé.
Hypertension, AVC, pontage, insuffisance cardiaque, le Figaro Santé fait le point sur le cœur, son fonctionnement, ses pathologies et les nouvelles avancées pour vivre mieux et plus longtemps. Également dans le Figaro Santé, les bienfaits de la méditation au quotidien. Le Figaro Santé, votre magazine santé, actuellement chez votre marchand de journaux.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique. Restez informé des sujets qui vous concernent en consultant les dossiers de la rédaction. Emploi, vie de bureau, entreprise, bourse, tech, argent, immobilier. Sur bfmbusiness.com, regardez toutes vos émissions en live ou en replay. Abonnez-vous au podcast et réécoutez le meilleur de BFM Business quand vous le souhaitez. BFM Business, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à BFM Business sur Twitter pour commenter l'actualité économique en temps réel. Suivez la rédaction sur Facebook pour découvrir des vidéos exclusives et sur LinkedIn au plus près des besoins des professionnels. BFM Business, toute l'information économique et financière sur Internet.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Un transport de fret imprévu ? VFret, où vous voulez, quand vous voulez. Un service via poste. Rendez-vous sur viaposte.fr.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Gilles Van der Potten. Il est directeur de l'ONG Reporters d'Espoir. Bonjour.
Bonjour.
Merci, Gilles, d'être avec nous. Alors, c'est une ONG qui a été créée il y a combien de temps maintenant ?
Il y a 15 ans, en fait, nos 15 ans cette année.
Et l'idée, vous vous battez depuis longtemps, même si vous êtes encore jeune, par votre leitmotiv, c'est Think Positive, j'ai envie de dire. C'est d'essayer d'avoir des actions positives relayées par des médias. Vous avez beaucoup de médias, une cinquantaine de médias qui sont associés, parmi les plus populaires, qui sont associés à votre association. Et vous essayez de formuler des récits mobilisateurs. Expliquez-nous comment on arrive à avoir un discours positif.
Si vous voulez, ça fait 15 ans que nous, on travaille sur le levier de démultiplication formidable que sont les médias, vos médias. Vous avez un pouvoir d'influence considérable. Et si vous parlez autant des problèmes, des catastrophes, que des réponses, ce que vous faites très bien avec BFM Business, des réponses concrètes de terrain menées par des individus, des collectifs, des entreprises, des associations, enfin, quels que soient les acteurs, on peut réussir des choses formidables grâce à vous, grâce à votre levier.
C'est comment fait-on ? Parce que l'idée, moi, j'en sois ça très bien, vous voyez, c'est formidable, j'applaudis, mais comment ça se traduit ? Vous voyez, c'est ça qui est important, c'est comment on peut traduire et essayer de faire évoluer les mentalités. C'est vrai qu'on est plus intéressé par les trains qui arrivent en retard que les trains qui arrivent à l'heure. La formule magique.
Concrètement, nous, il y a 15 ans, on a démarré avec Libération, on a fait le Libé des solutions. Ouais. Peu de gens y croyaient, c'était la meilleure vente de l'année avec plus de 24% de vente au numéro. On a fait pareil avec Ouest France, on a eu des chiffres très intéressants. Avec Nice Matin, aujourd'hui, qui a un succès phénoménal avec son offre solution. On voit qu'il y a une demande, il y a un ras-le-bol aussi du négativisme. Ou plutôt, il y a un plafond, en fait, au-delà duquel on supporte de moins en moins et on zappe. Donc faire non pas du positivisme mais du constructivisme quelque part, parler de réponses concrètes, c'est le complément indispensable selon nous, et on voit que de plus en plus de médias s'intéressent à cette démarche.
Oui, d'accord, parce que c'est les Français derrière, vous sentez qu'il y a un besoin des Français?
Oui, bah vous avez plusieurs sondages qui disent en général que 60 à 70% des Français estiment que les médias font trop de place aux mauvaises nouvelles. Là on vient de faire une étude avec make.org sur ce que les Français, les citoyens attendent de leurs médias, et ils sont beaucoup à demander de la pédagogie, du temps long et de l'analyse, et des choses constructives, des initiatives, du positif, enfin chacun a ses mots, mais on le voit concrètement dans les études d'opinion.
Alors demain décidément c'est un peu la grande journée, demain vous organisez au Conseil économique, social et environnemental votre grande journée justement sur la France des solutions, où il y a je sais pas si c'est une centaine de personnalités, il y a des gens qu'on connaît bien ici comme Frédéric Mazzella, il y a aussi Delphine Ernotte, il y a Lambert Wilson, donc il y a des personnalités qui viennent. Elles viennent quoi ? Elles viennent témoigner, ou alors elles viennent montrer qu'elles essaient d'avoir de think positive, de penser positif.
Toutes ces personnalités ont des responsabilités, elles ont donc une influence, qu'elles soient activistes, personnalités engagées, entrepreneurs, patrons de médias, ont un message et une responsabilité à porter. Et puis, elles sont là aussi pour sublimer, si j'ose dire, ou dire, ben oui, vous, les acteurs de solutions qui agissaient dans l'ombre, puisqu'il y en aura plein à la tribune qui viendront pitcher en 6 minutes top chrono, voilà, nous, on fait se rencontrer des mondes très différents, des acteurs de solutions qui ont les mains dans le cambouis, et puis d'autres qui ont des leviers médiatiques, économiques, financiers, etc., et qui peuvent aider cette France des solutions, et qui est forcément multiple. C'est des industries, c'est des associations, c'est des PME, des ETI.
Et ces gens qui vont venir pendant 6 minutes présenter leur initiative, justement, positive, comment est-ce que vous les avez sélectionnés? Comment est-ce qu'elles comment elles ont été choisies?
Alors en fait, nous, on a des équipes de bénévoles et de journalistes qui, tout au long de l'année, font de la veille pour dénicher des initiatives. Donc c'est vraiment le résultat d'une veille. Ça peut être du bouche à oreille, ça peut être ce qui se passe dans les médias aussi, des médias locaux qui ont identifié des initiatives qui peuvent intéresser BFM Business, TF1 ou d'autres, des journaux nationaux. Donc on a un dispositif de veille assez important.
Alors là, justement, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, évidemment, vous regardez comment on peut mobiliser sur ce défi climatique, économique, écologique, digitaux. Donc, on voit qu'on est en grande mutation. On en parle souvent ici dans le RH. Comment vous avez sélectionné ces dossiers-là, essentiellement sur l'écologie?
Alors, c'est vrai que la transition écologique étant dans toutes les têtes, dans tous les esprits, Denis Terrien en parlait tout à l'heure, y compris c'est un sujet apporté au plus haut niveau des entreprises. C'est plus une question. On est forcé de s'y intéresser. Nous, on a voulu effectivement s'axer là-dessus et montrer que des entreprises peuvent faire leur reconversion vers l'économie circulaire, l'économie de la réparabilité. Il y aura Seb, par exemple, qui a fait un travail phénoménal de 10 ans de réingénierie de tout leur électroménager, qui ont formé 6000 réparateurs partout en France pour lutter contre l'obsolescence programmée.
Dernière question, Gilles Van Der Potten, parce qu'au-delà de cet événement, vous essayez d'imaginer un nouveau rêve français. vous allez réussir à avoir ce nouveau rêve français. Qu'est-ce qu'il faudrait si vous... Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous écoutent ou qui vous regardent?
Mais écoutez, qu'on a plein d'atouts, plein d'initiatives formidables. C'est bien de les mettre en avant, mais il faut aussi prendre un peu de recul et se dire comment globalement elles peuvent faire évoluer les choses, comment elles peuvent s'allier, agir ensemble. Et donc on mène cette réflexion avec des entreprises, la Caisse d'Épargne Île-de-France, Business France, des associations, la Fondation Nicolas Hulot, etc. Il y a vraiment des acteurs très variés. Il faut du dialogue pour accomplir cette transition écologique.
Et en tous les cas, vous arrivez à faire bouger les choses, donc ça, c'est plutôt sympathique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gilles Vintempotent. Donc, c'est demain, Conseil économique et social, la France des solutions. Dans un instant, lui, il a peut-être une solution. C'est Bertrand Pérez, directeur général de l'association Libra, qui est avec nous. Bertrand Pérez, bonjour.
Oui, bon.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur général de Libra. Alors Libra, c'est cette association qui fait un petit peu peur, puisque vous avez donc décidé de créer cette monnaie avec les sous l'égide de Facebook, future monnaie virtuelle. Et vous avez donc lancé cette association, et ce malgré quelques défections, évidemment, qu'on a encore recité tout à l'heure, comme PayPal ou d'autres. Expliquez-nous d'abord, qu'est-ce que vous cherchez à faire, Bertrand Pérez ?
La vision de Libra, c'est effectivement de mettre à disposition de l'ensemble des personnes un service qui, pour nous, devrait être un service de base accessible à tout le monde, c'est-à-dire la possibilité de stocker de la valeur et puis d'envoyer de l'argent et de pouvoir faire des paiements d'une manière efficace, donc en termes de temps d'exécution, et également en termes de coûts. Donc pour nous, c'est un besoin basique que nous, on va dire en France ou dans les pays avancés, on se pose pas trop de questions sur ce genre de service puisqu'on a tous accès à un compte en banque, à des cartes de crédit. C'est malheureusement pas le cas pour énormément de personnes dans le monde, et on pense qu'aujourd'hui la technologie et l'évolution de la technologie, et notamment la technologie blockchain, apporte un certain nombre de solutions dans ce domaine-là pour favoriser ce type de service et permettre à une majorité d'accéder à des services financiers de base basiques, mais qui déclenchent ou qui évitent à des gens d'accéder à beaucoup de services par la suite, que ce soit d'avoir de se faire payer, de pouvoir faire des achats, de pouvoir transmettre de l'argent à des proches de manière
Bertrand
rapide.
Bertrand Pérez, est-ce que c'est une monnaie de plus?
C'est un système de paiement, donc paiement aux monnaies existantes.
Oui, monnaie ou pas monnaie?
C'est un token de paiement, donc dans la terminologie qu'on utilise, c'est un token de paiement qui est un complément aux monnaies existantes, qui se repose sur les monnaies existantes, donc qui est basé sur le dollar, l'euro et un certain nombre de monnaies, et qui vient complémenter ces monnaies-là. Donc c'est simplement une représentation digitale des monnaies existantes qui permettent de transférer de la valeur sur Internet de manière
efficace. D'accord, on a compris le système. Bertrand Pérez, est-ce que si PayPal s'est retiré, c'est parce que finalement c'est quand même très très concurrentiel par rapport à PayPal?
Aujourd'hui, si vous voulez, suite à l'association, à l'assemblée générale de l'association hier, nous avons le plaisir d'avoir 21 sociétés qui font partie de l'association, qui sont extrêmement motivées, et d'autres sociétés qui effectivement avaient manifesté leur intérêt au début de l'aventure ont pris la décision de se retirer pour des raisons qui sont les leurs et qui sont totalement respectables.
Est-ce que c'est concurrentiel de PayPal? Et c'est pour ça qu'ils se retirent?
Parce que ça, je ne peux pas parler pour PayPal.
Parlez pour vous.
C'est concurrentiel pour nous, si vous voulez. C'est un moyen aujourd'hui de rendre un service qui n'est pas rendu. Donc, que ce soit PayPal ou que ce soit les systèmes existants, on considère qu'il y a un certain nombre de services, un certain nombre de zones géographiques sur lesquelles ce type de service n'est pas rendu, et on pense avoir une solution pour ces problématiques.
Il y a la Chine qui lance aussi sa propre monnaie, un peu le même genre de propre monnaie virtuelle, évidemment un peu genre de concurrent par rapport à Libra. Ça pourrait être le 11 novembre, enfin à partir du 11 novembre, je ne sais pas si vous confirmez. Est-ce que c'est pour le coup, là, on est sur le même créneau?
Ah bah alors je peux pas parler pour la banque de Chine, mais effectivement ça fait un moment que c'est dans l'air du temps et que cette annonce a été faite, et la technologie aujourd'hui blockchain effectivement permet de faire beaucoup de choses, et la Chine aussi bien que d'autres puissances ou d'autres entités ont capacité à voir les avantages de ce type de technologie et ce qu'ils peuvent en faire. Donc oui, effectivement ils vont lancer, alors que ce soit le 11 novembre ou plus tard, je ne sais pas, mais effectivement c'est une annonce qui a été faite depuis un moment, et je pense qu'effectivement effectivement ce type de solution-là apporte des réponses concrètes. Et aujourd'hui, nous, dans notre logique de discussion avec les régulateurs et de travail en coopération avec les régulateurs, qu'ils soient européens ou américains, on est dans une logique proactive de coopération.
Et pour vous, c'est quand le lancement ?
Pour nous, le lancement initial, lorsque nous avions annoncé le projet, puisque ce n'est encore qu'un projet, le 18 juin, donc on avait donné un objectif qui était en milieu d'année prochaine. Aujourd'hui, notre position, c'est de dire on est là pour construire une plateforme qui va durer dans le temps et qui fait les choses dans le bon ordre.
Donc
et
ça sera pas, ça sera le...
Enfin, avec les régulateurs est importante. Donc on fera le lancement quand on sera à l'aise, et quand les régulateurs seront à l'aise avec la solution, et on n'est pas à quelques trimestres près, vu la vision que nous avons pour ce projet et le fait qu'on veuille l'inscrire sur le long terme. Et non pas pour être là pour lancer le projet et devoir l'arrêter quelques jours après. Donc on est dans une totale discussion avec les régulateurs.
Donc c'est pas pour tout de suite. Oui, les régulateurs, ça aussi c'est un grand débat. Merci beaucoup Bertrand Pérez d'avoir été avec nous en direct de Genève, directeur général de l'association Libra. On prendra notre temps en tous les cas, c'est ce qu'il vient de déclarer.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrier.
Il est un peu plus de 12h30, le rappel des titres, Thomas Asportas.
L'heure de vérité approche pour le Brexit. Michel Barnier fixa ce soir la date limite pour un accord pour que les chefs d'État au Conseil européen puissent ensuite se mettre d'accord. Et la situation est toujours aussi indécise, puisque le négociateur européen démarrait la journée en affirmant qu'un accord avec le Royaume-Uni est encore possible cette semaine, avant de se raviser quelques heures plus tard, en déclarant que les dernières propositions britanniques ne sont pas suffisantes. Le Luxembourg, où se tenait donc ces toutes dernières discussions entre Michel Barnier et son homologue britannique Steve Barclay, déclare que si un accord n'est pas trouvé ce soir, un sommet extraordinaire européen sera probablement nécessaire courant octobre. En Allemagne, le moral des investisseurs continue de se dégrader, mais il a moins reculé que prévu au mois d'octobre. L'Institut Zoo déclare que le scepticisme économique est toujours fort en Allemagne du fait des tensions commerciales. En France, les créations d'entreprises ont progressé au mois de septembre de 4,2% après avoir reculé en août. Sur les 12 derniers mois, les créations d'entreprises en France ont augmenté de 16,6%. Et puis pour finir, dans l'actualité des entreprises, l'EPR a finalement peut-être encore de beaux jours de devant lui, puisque malgré les déboires récents à Flamanville et à Hinkley Point, le gouvernement demande à EDF, dans une lettre de mission, de réfléchir à la mise en chantier de 6 nouveaux réacteurs. L'exécutif précise qu'il s'agit pour l'instant d'une hypothèse de travail. BFM Business, midi 32. Je vous redonne le CAC à la mi-journée qui progresse, qui gagne 0,53% à 5672 points. L'euro dollar, quant à lui, recule un petit peu, on abandonne 0,13%. 1 euro s'échange pour 1,10$.
Merci Thomas. Suive Timo Bestoil, c'est le nouveau patron de Croissance Plus, et Vincent Gerlet, délégué général de la fabrique de l'industrie. On parlera d'industrie et d'impôts productifs. A tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Et ce sont nos invités, puisque je reçois Thibaut Bestoil, le nouveau patron de Croissance Plus. Bonjour, rebonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Et à vos côtés, Vincent Charlet, qui est le délégué général de la Fabrique de l'Industrie. Merci vous aussi d'être là. On va parler évidemment pacte productif. Éventuellement baisse des impôts productifs. Agnès Bannier-Runacher, qui était mon invitée il y a quelques jours, a dit qu'elle pensait que ça en pouvait peut-être toucher un peu à la marge. Il y a plein d'études qui sont sorties. On a l'impression que le gouvernement enfin commence à voir que c'est un vrai sujet. Je commence d'abord, Thibaut Bestoil, par vous. Croissance Plus, une entreprise qui marche, qui se développe beaucoup. Vous-même, vous en êtes à votre troisième entreprise. Est-ce qu'on travaille pas assez en France?
Oui, alors effectivement, on a vu l'article des Échos ce matin qui rappelle...
C'est une déclaration de Bruno Le Maire. Hein, donc,
alors, également. Donc en fait, si on regarde les chiffres, en fait, la moyenne de l'OCDE, c'est à peu près 1700 heures par an, et on est à 1520 ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, on dit toujours que les Français sont les champions de la productivité par heure, on va dire, mais par contre, le temps travaillé est inférieur à celui de nos concurrents. Et effectivement, dans un marché concurrentiel, c'est un vrai sujet. On a été impacté par les 35 heures en son temps, et on paye toujours en fait les frais de cette baisse du temps travaillé.
Oui, en même temps, Vincent Charlet, je me trouve à vous représenter Monsieur Industrie un petit peu. Ce que disait Philippe Martinez, hein, le secrétaire général de la CGT que je recevais ce matin, il dit, bah oui, mais enfin, on a un niveau de chômage quand même très très élevé, même s'il baisse, et donc ça explique aussi par lequel on bosse moins qu'ailleurs.
Alors, il y a une part de l'explication qui tient au chômage. Il y a aussi beaucoup, malheureusement, le taux d'emploi qui est plus bas en France que dans les autres pays.
Et taux d'emploi des seniors, notamment.
Pour les seniors et pour les jeunes. Alors, le taux d'emploi des seniors s'est amélioré.
Oui.
Par contre, il reste des marges de progrès, comme on dit, sur le taux d'emploi des jeunes. Oui.
Mais est-ce qu'on risque un déclassement productif ?
Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, monsieur a parlé de productivité, c'est vrai qu'elle est élevée en France, et on aimerait qu'elle garde son rythme. Il faut pouvoir augmenter le nombre d'heures travaillées, si on y arrive, sans baisser la productivité, sinon on n'a rien gagné. Donc il ne s'agit pas d'augmenter artificiellement le nombre d'heures travaillées.
Ouais, et Thibaut Bechtoil, vous pensez qu'on a un déclassement productif on a, ou pas ?
Non, je pense pas. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, cette productivité, c'est un atout. Et que le travail, le taux d'emploi, le nombre d'heures travaillées par an est quelque chose sur lequel il faut continuer à travailler. Bruno Le Maire le dit, c'est très bien. Je pense que beaucoup d'économistes l'ont dit pendant des années. Il faut que la France réalise que ces distorsions concurrentielles, que ce soit sur les impôts ou sur ce sujet des heures travaillées, pose un problème pour les entreprises qui doivent se battre dans un monde concurrentiel, exporter, travailler contre leurs concurrents allemands, anglais ou américains.
Oui. Alors vous étiez à Bercy, vous, ce matin, hein, je crois, en l'occurrence. Pas vous, n'étiez pas,
non,
vous sortiez.
Oui.
Vous étiez. Mm-hmm. Est-ce que vous avez été convaincu, vous avez le sentiment qu'il va se passer quelque chose, ou alors, oui, il va se passer quelque chose, mais enfin, c'est dans très longtemps.
Alors, très longtemps, pas forcément, mais il y a une prise de conscience, ça c'est sûr, sur les impôts de production et sur l'ensemble des mesures nécessaires à la santé de l'industrie, du secteur productif. Maintenant, il faut des marges de manœuvre budgétaires, et c'est quand même là que le bas blesse. Enfin, ou en tout cas, s'il y a une raison pour attendre, c'est celle-là.
Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit d'autre, Bruno Le Maire ?
Alors, comme il faut que je sois là, je ne pouvais pas entendre Bruno Le Maire.
D'accord, oui, non, mais enfin, vous demande de travailler sur toi. Parce que les impôts de production, on va voir qu'il y a la CFE, la CVAE, la sur la valeur ajoutée, et la C3S sur les chiffres d'affaires. Est-ce qu'il a donné quelques pistes en disant là-dessus, on va rabioter, on va.
Mais enfin, le gouvernement a commencé à communiquer sur le sujet il y a déjà quelques jours. Ils ont effectivement, on va dire, accusé réception de l'ensemble des études qui ont été produite sur cette question des impôts de production. Il y a un consensus sur parmi les économistes pour dire que c'est un impôt idiot, anti-productif, qu'il faut pouvoir trouver un moyen de substituer, d'y substituer d'autres prélèvements si besoin, ou en tout cas de réussir à s'en passer. Mais je le redis, il y a un problème de marge de manœuvre budgétaire. Et aux dernières infos que j'avais, ces marges de manœuvre, elles n'étaient pas encore là.
Non, ça c'est moins qu'on puisse dire. Thibaut Bechtoil, vous avez, je disais, vous êtes un serial entrepreneur. Vous êtes là dans la dernière entreprise, vous êtes dans la cybersécurité.
Absolument.
En France, hein, OZON, vous voyez.
OZON.
OZON. Les impôts de production, ça ne pèse pas très lourd pour vous, parce que vous n'êtes pas une entreprise, vous n'êtes pas industriel.
Si, en fait, justement, alors, ça c'est une idée reçue. On pense que l'impôt de production dit forcément emploi industriel. En fait, dans le service ou dans le logiciel, la CVAE pèse vraiment sur les entreprises.
Oui, CVAE,
et, et c'est la partie sur 24 milliards, en fait, entre C3S, CFE et CVAE. La CVAE est la partie la plus lourde. Donc c'est vraiment important que cet impôt soit baissé. Nous, on a fait des propositions très concrètes, en fait, avec l'Institut Sapiens. C'est de supprimer la C3S très rapidement, et ensuite, sur 5 ans, avoir une trajectoire de baisse des impôts de production, CVAE et CFE, de manière à retrouver la compétitivité. Ce qu'il faut comprendre...
Enfin, ça coûte combien? Vous avez chiffré ça? Parce que l'Institut Montaigne, que je recevais avec Nicolas Bouzou, ils ont fait tout un travail là-dessus. Donc, eux, ils ont des propositions. 15 milliards d'euros, comme disait Vincent Charlet, on n'a aucune marge de manœuvre. Hein.
Bien sûr, mais en fait, la marge de manœuvre, il faut prendre un peu de recul par rapport à ça, parce que si on est simplement sur gérer l'existant, à un moment donné, une gestion comptable... moi, je vais prendre un exemple qui était en son temps l'ISF. À l'époque, j'avais pas mal travaillé avec Christian Saint-Étienne. Qui d'un côté, on parle de 4 milliards d'ISF, mais la valeur perdue pour la France, c'est 600 milliards d'euros.
Mmh.
D'accord ? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de gérer l'État dans une vision purement comptable. Il faut avoir une vision un peu stratégique. On dit, voilà, si on baisse les impôts de production aujourd'hui, et nous, on recommande donc 24 milliards sur 5 ans, c'est extrêmement précis, documenté avec notre partenaire Sapiens, eh bien, on pense qu'il y aura des effets bénéfices sur de la baisse des dépenses, d'allocation chômage, ou augmentation de l'IS, etc., etc. Donc, il faut prendre en compte cette dimension, parce que sinon, on n'en sortira jamais. Et il faut passer d'une espèce de dette improductive et passive à des investissements sur l'emploi, sur l'avenir. Mais je pense qu'il faut le faire maintenant.
Je pense qu'on voit bien. C'est drôle, je dirais, c'est un sujet qui émerge assez récemment. Les entreprises, elles s'étaient mobilisées au moment des transformations de la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée en CVAE. Mais sinon, ce n'est pas un sujet, je vous vois Vincent Charlet un peu me contredire, mais ce n'est pas un sujet qui était mis en avant. On parlait beaucoup... de l'ISF, on parlait beaucoup de la taxation sur les dividendes, l'impôt sur les sociétés.
Il y a eu d'autres sujets qui ont été ouverts, c'est vrai, mais dans les couloirs des officines, centres de recherche, think
tank. C'est ça, dans les couloirs, voilà.
Oui, oui, mais, oui. Mais ce sujet des impôts de production, on y travaille depuis longtemps, ça c'est clair.
À la faveur d'une industrie, est-ce que vous avez...
Simplement, il faut comprendre. Donc, quand on dit 72 milliards d'euros contre c'est 3,5% du PIB contre 0,5% en Allemagne, c'est vraiment un sac de 100 kilos que vous mettez sur un coureur de 100 mètres.
Oui, alors c'est difficile, c'est pas tout à fait exactement pas ça, parce que les impôts sont pas les mêmes, etc. Grosso modo, non, vous avez raison de dire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd.
Non, mais je pense que les gens passent à côté d'un point, c'est qu'en fait, on charge le sac de pierre contre des concurrents qui viennent même se battre sur le territoire français. C'est-à-dire qu'en fait, l'Allemand qui vient se battre avec le Français sur le territoire français n'a pas ce handicap. Mmh. D'accord ? Et ça, c'est un peu... On parle beaucoup d'impôts de production, ce point-là n'est pas forcément perçu. Les entreprises françaises partent avec ce handicap-là très concrètement dans la concurrence quotidienne sur le territoire français, comme c'est le cas, bien sûr, à l'international et à l'exportation de la même manière.
C'est vrai.
Vincent Charlet, fabrique de l'industrie.
Et en même temps, le diable est dans les détails. Les impôts de production, en fait, c'est un... Vous avez dit un sac dans lequel il y a une dizaine ou plusieurs dizaines de taxes différentes qui s'accumulent.
Oui, parce que moi, je citais les trois grandes, mais il y en a plein d'autres.
Il y en a plein. Il y en a plein et qui, parfois, ont été introduites, par exemple, pour inciter à moins consommer de carburant et à moins émettre de CO2. Donc, certaines de ces taxes ont été proposées pour financer des collectivités territoriales au service d'un objectif louable. C'est pour ça que la réforme est difficile. Vous demandiez tout à l'heure quand est-ce qu'on pouvait imaginer que ça bouge. Moi, j'aurais tendance à dire avant 2022, on en parlera et à partir de là, on verra.
Oui, à mon avis, d'après ce qu'a dit ici même Agnès Pannier-Runacher, qui est un peu en charge, qui est madame impôt de production, elle a dit, on va en parler, mais c'est à 2025, enfin c'est entre 2022 et 2025, même si peut-être que là, dans le budget 2020, il y aura peut-être quelques suppressions de taxes.
Ça serait mon pronostic, oui.
Oui, c'est votre pronostic. Lesquels, en l'occurrence, vous pensez-vous?
Oh, alors ça, j'en sais rien.
Oui. Pronostic est autour de combien? Ça ne va pas satisfaire Thibaut Bechtoil.
Ça sera une amorce, mais voilà. Disons que le sujet est sur la table. Maintenant, ça, c'est clair. La réforme va être lancée, mais je me répète, le gouvernement manque de marge de manœuvre pour entamer vraiment le mouvement.
Si on prend 24 milliards de baisse d'impôts qu'on propose, en fait, il y a 8 milliards qu'on retrouve directement par le transfert. En fait, on veut que ce soit que ça passe au niveau impôt sur les sociétés par opposition à être imposé en amont.
Oui.
Donc, vous avez 8 milliards, il reste 16 milliards. Une partie de ça, et ça a été à nouveau quantifié avec notre partenaire Sapiens, est gagnée sur la baisse de certaines dépenses, sur l'augmentation de l'impôt sur les sociétés, du pouvoir d'achat des ménages, de la consommation et donc de la TVA. Donc à mon œil, il faut faire la balance de tout ce qu'on gagne après en baissant cette taxe qui est effectivement extrêmement improductive.
Ouais. C'est un point parce qu'on a le sentiment que Bruno Le Maire là, est en train de relancer la bataille de la productivité, donc pourquoi pas. Est-ce que ce pacte productif il est très important qu'ils sont en train, là il y a 6 mois pour discuter, vous avez tous les deux discuté avec Bercy là-dessus.
C'est absolument majeur en fait. Moi je suis grenoblois, j'ai vu une industrie qui est l'industrie du ski à Grenoble disparaître complètement sur deux sujets: les impôts de production et les problèmes de transmission des entreprises. Donc on a tué en fait pendant des années, pendant 20 ans, 25 ans, le tissu industriel. Très concrètement, moi je parle d'entreprises connues comme Rossignol, comme Pomagalski, comme Dynastar, etc., qui sont passées aux mains étrangères parce qu'on avait quelque part plombé leur sac à dos pendant des années et des années. Donc c'est extrêmement concret, donc il y a urgence. Et à nouveau, ne restons pas sur le principe que c'est que de l'emploi industriel. On a un entrepreneur de Croissance
Plus. Oui, c'est le patron de Croissance Plus qui parle justement. Oui.
Voilà, on a O2 qui est une de nos belles entreprises en fait, dirigée par Guillaume Richard. On a fait des petites simulations concrètes pour dire qu'est-ce qu'on gagnerait en fait, avec ces baisses recommandées d'impôts sur la production, et dans sa société qui fait à peu près 20 000 personnes, il y avait concrètement 150 embauches supplémentaires qu'il pourrait faire du jour au lendemain. Mmh. Donc c'est très concret.
Ouais. Vincent Charlet, je pense que vous buvez quand même du petit lait, parce que c'est vraiment le combat que vous menez à la fabrique de l'industrie, avec le Gallois, avec Philippe Varin, Pierre-André Chanadar, c'est vraiment le...
Oui, le pacte productif est important. J'ajouterai un point à ce qui vient d'être dit. C'est en gros le 4.0, enfin tout cette mobilisation autour de l'industrie du futur, qui encore une fois ne concerne pas que l'industrie manufacturière. Nous, nos études, notamment sur l'investissement des entreprises, une étude sortira bientôt, montrent que les chiffres macro qui pouvaient nous rassurer sont peut-être un tout petit peu à côté de la plaque, pour le dire familièrement. Et il n'est pas certain que le comportement d'investissement des entreprises françaises soit aussi actif qu'on pourrait l'espérer, aussi bien dans les biens tangibles, les machines, que dans l'immatériel, et notamment la R&D. L'effort de R&D est plutôt raisonnable en France. En revanche, dans les logiciels et équipements, il y a une concentration extrême de l'investissement dans certains secteurs et dans certaines grandes entreprises. Mais pour le résumer d'un chiffre, la moitié des entreprises industrielles françaises ont un capital immatériel, pas un flux, hein, un stock de capital immatériel égal à zéro. Donc le mouvement vers l'industrie 4.0 et l'industrie future n'est pas encore une lame de fond.
Oui, ben non, ça vous avez raison de le souligner. Ça, c'est vraiment encore un. Même si ça bouge, en tous les cas, c'est ce que disait Nicolas Dufour, qui s'y met, le patron de BPI France, disant quand même ça bouge un petit peu dans les mentalités.
Bien sûr, mais d'où l'importance du pacte productif. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment accompagner le mouvement et on est encore qu'au début.
Thibaut Péchoil, est-ce que finalement, c'est pas complètement trompé de. À la limite, le gouvernement, parce que les poches ne sont pas ouvertes, hein. C'est trompé. Le gouvernement précédent, on aurait dû ne pas faire le CICE, on n'aurait pas dû faire la baisse d'impôt sur le dividende. Décidément, sur les bénéfices, mais on aurait dû baisser les impôts de production, voire les supprimer. C'est ce que vous nous dites ?
Je pense que non, il n'y a pas d'erreur qui a été faite de ce point de vue-là. Je pense que la baisse des charges a joué un rôle très important. On parlait de 950 000 emplois supplémentaires créés depuis la baisse de la CICE.
Oui, on va presque avoir les 1 million.
La baisse des charges, pardon. Oui, c'est ça. Oui.
Donc, finalement, Pierre Gattaz aura peut-être eu raison.
Exactement. Et ça a été souligné d'ailleurs à la REF il n'y a pas très longtemps, en septembre. Donc non, je crois que ce sont des bons combats. Je crois que le combat ultime, c'est effectivement ce niveau de dépenses publiques dont tout le monde parle, qui est encore à 54%. 7 points au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, c'est considérable. Donc ça fait en fait un delta de 150 milliards de charges qui pèsent. Et nous, en fait, chez Croissance Plus, alors on veut y travailler, on veut, peut-être avec vous d'ailleurs, faire de la pédagogie sur ces chiffres qui ne parlent à personne, c'est-à-dire des budgets de 10 000 milliards ou les impôts de production à 70 milliards. C'est quoi, en fait, à la fin de la journée, d'ailleurs l'étude du MEDEF était très bien pour ça, hein. À la fin de la journée, c'est quoi sur le salaire, c'est quoi sur le pouvoir d'achat, et finalement l'impact direct sur les gilets jaunes. Et si on peut, nous, Croissance Plus, avoir contribué à cet effort de pédagogie et faire le lien entre la macro et la micro, on sera assez content d'avoir participé à cet effort d'éducation.
Ça, je peux vous dire, nous, on s'essaye beaucoup de faire ça à BFM Business, on voit que c'est très compliqué en l'occurrence parce que l'économie ne rentre pas vraiment dans la tête des Français. Mais c'est vrai que ça bouge, on fait de la pédagogie.
On va essayer de contribuer un peu.
Vincent Charlet.
Oui, si c'est difficile de faire de la pédagogie, c'est aussi parce que, à mon avis, les phénomènes sont de plus en plus compliqués. Quand on regarde les trajectoires des territoires, territoires d'industrie ou territoires, zones d'emploi en France, on s'aperçoit d'une part qu'ils s'écartent de plus en plus les uns des autres, c'est-à-dire leur capacité à créer de l'emploi ou le fait qu'ils détruisent de l'emploi, malheureusement, s'accentue d'un territoire à l'autre, et que pour une moitié, ce phénomène dépend de paramètres purement locaux, c'est-à-dire la capacité des entrepreneurs à travailler ensemble, l'existence d'un pôle de compétitivité, etc. Donc, les politiques nationales n'embrassent, on va dire, qu'une moitié du problème, et une autre moitié du problème relève de l'intelligence locale. Donc ça devient aussi compliqué d'embrayer. On a eu un phénomène analogue avec les baisses de charges dont vous parliez à l'instant. L'industrie n'est pas concernée par des emplois au niveau du SMIC ou marginalement, très peu. Donc une mesure comme le CICE qui, dans l'ensemble, macroéconomiquement...
Ah oui, mais là aussi, il y a tout un débat pour savoir jusqu'où on baisse, effectivement.
Bénéficie à certains secteurs et pas à d'autres. Et ça sera la même chose pour les impôts de production. Si vous choisissez de baisser les impôts de production plutôt que l'IS, vous rendez service, si j'ose dire, vous donnez de l'oxygène à certains secteurs productifs et pas à d'autres.
Oui, mais ça, c'est. Oui. Mais le problème, c'est d'avoir.
Ça complique la pédagogie.
Oui, ça complique la pédagogie, et puis ça dépend où est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on recherche ? Est-ce que c'est la baisse du chômage à tout prix, même si c'est pas forcément ce qu'on veut ? Enfin, c'est tout le débat, hein, sur le niveau de la baisse des charges.
Ce matin, à Bercy, Philippe Aguillon proposait ses résultats de recherche en réponse à cette question. Il dit, ce qu'on observe, c'est que les politiques publiques sont plus efficaces quand elles ciblent les secteurs intensifs en connaissances qui sont déjà concurrentiels.
Thibaut Péchoil, puisque vous venez d'être nommé à la tête de Croissance Plus, c'est quoi pour vous les défis ? Alors, on a parlé du pacte productif, ça c'est un point important. Qu'est-ce qui est important à mettre en avant pour les entreprises de croissance, maintenant, il faut avoir, pour être membre de Croissance Plus, il faut avoir une croissance de combien ? Parce qu'avant, c'était vertigineux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moins le cas.
Oui, et puis en plus, le terme croissance prend un sens différent aujourd'hui. Je pense qu'on parle plus de croissance responsable, de croissance durable. Et donc croissance plus, c'est on dirait croissance plus d'impact, croissance plus d'humanisme dans le management. Enfin, il y a des tas de choses qu'on pourrait ajouter comme qualificatif à croissance plus. Donc, il faut être en croissance, on va dire en moyenne de 10%. Bon, on a vu avec les cycles de crise qu'on peut être un peu tolérant à certains moments. Il faut faire plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il faut surtout avoir en fait une volonté de partager les fruits de la croissance en fait avec ses employés et son écosystème. Donc, le sujet en fait du partage de la valeur et d'avoir un capitalisme beaucoup plus redistributif est un sujet qui nous occupe beaucoup. Moi-même, je suis très intéressé par un sujet, c'est comment est-ce qu'on peut faire des plateformes qui, à l'inverse de Deliveroo ou Uber, n'ont pas comme vocation forcément d'être à 80 milliards de market cap, mais qui ont vocation à avoir un espèce de mode de crowdfunding en fait, des producteurs de services, donc le VTC, le propriétaire de chambres d'hôtes, etc., et finalement redistribuer la valeur. Et ça, c'est quelque chose sur, qui est vraiment dans l'ADN de Croissance Plus, et on encouragera ce type de création, de projet qui nous paraissent intéressants.
Est-ce qu'il faut produire en France pour être à Croissance Plus ?
Alors, oui, enfin, il vaut mieux produire en France. Maintenant,
non, mais
après,
mieux, c'est pas la même chose qu'il faut produire en France.
Alors, il faut produire en France. Non, c'est pas un diktat. Maintenant, on favorise la production en France, qui sera d'autant plus, je dirais, possible si on baisse les impôts de production, qui sont quand même un vrai problème.
Oui, c'est pas un frein. C'est un frein.
Ah oui, non, c'est clairement un frein.
Vous avez un frein.
Regardez un groupe comme Schneider, en fait, qui a une volonté, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais une volonté stratégique, en fait, de diminuer son empreinte en France pour s'implanter.
Parce que son marché, il est chinois.
Bien sûr, mais pas que. Pas que. Il y avait une grosse production aussi, en fait, de Schneider en France, avec l'historique Merlin-Gerin, Jeumont Schneider, etc. En fait, il y a une volonté stratégique de diminuer au maximum, en fait, cette production en France, parce que ces impôts de production représentent une somme considérable pour ces groupes-là.
Oui. Vous êtes d'accord, Vincent Charlin, Fabrique d'Industrie ?
Je ne sais pas le dire, mais on s'est justement attelé à cette question de savoir si l'industrie française avait plus que d'autres, et notamment plus que l'industrie allemande, tendance à aller situer la production ailleurs qu'en France. Et honnêtement, on n'a pas trouvé de traces ni de preuves de ça. Donc, ce qui est certain, c'est que les grandes entreprises, les très grandes entreprises, ont un poids important dans l'économie française et l'industrie française, plus que, par exemple, l'Allemagne, qui comporte beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire. Et du fait simple de cette présence des grandes entreprises françaises, il y a un business model. Le territoire français se rémunère davantage en retour d'investissement direct étranger qu'en exportation. Donc ça, c'est mécanique. Mais est-ce que à deux entreprises comparables, françaises et allemandes, ont des comportements différents dans les choix de localisation ? Pour l'instant, on n'en a pas la trace.
Vous avez vu, hein, quand même, Thibaut Bechtoil, c'est intéressant.
Il peut y avoir des avis différents.
Voilà, c'est la Fabrique de l'Industrie, c'est le think tank industriel avec des parrains prestigieux, en l'occurrence.
Oui, mais on a nos membres qui nous disent des choses. Si j'ai encore deux minutes, je voulais juste te dire, en fait,
une.
Alors, dans les combats de croissance plus, il y a donc bien évidemment la croissance. Et ça veut dire, en fait, favoriser la rotation du capital, qui est un sujet vraiment important, et donc remettre sur la table le sujet de marchés boursiers efficaces, qui sont un moteur très très important en fait de l'écosystème de l'innovation et de la croissance.
Oui, ça c'est un point. Stéphane Bougenin, le patron de Euronext, était notre invité hier matin. Mais en l'occurrence, on voit que c'est difficile pour les PME d'accéder à la bourse. Que pour l'instant, c'est plutôt de plus en plus, on se tourne vers des private equity ou on se tourne vers des sociétés genre Tikeo ou autres.
Mais c'est un vrai enjeu stratégique pour l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura pas le temps de le faire, mais je serais ravi de revenir là-dessus. Quand on analyse en fait l'écosystème entrepreneurial de la Silicon Valley ou des États-Unis, c'est essentiellement basé sur le Nasdaq qui produit des belles sorties en bourse, qui produit des entrepreneurs qui peuvent devenir des business angels, qui produit des acteurs du private equity, etc. Donc il y a un cercle vertueux qu'il faut arriver à reproduire en Europe.
Est-ce que vous êtes votre rémunération est en France ? Vous êtes domicilié fiscalement en France ?
Oui, alors je suis dans. Oui, bien sûr.
Je suis dans
une phase d'investissement de mon projet, donc j'ai plus sorti d'argent que je suis rémunéré en fait.
Ah oui, d'accord.
Mais bien sûr.
Mais sur le principe, vous trouvez que c'est une.
C'est stupide, c'est totalement stupide. Franchement, c'est totalement ridicule. Ouais. On a toutes ces contraintes, toutes ces lois, toutes ces taxes, et puis après on essaye de trouver en fait des systèmes avec un peu de mercurochrome sur une jambe de bois. Je pense que c'est totalement stupide. Il faut juste faire confiance aux entrepreneurs qui sont des gens responsables.
Eh oui, on aime bien ça en France, surtout Bercy. En l'occurrence, merci beaucoup à Thibaut Bechtoil, donc le nouveau patron de Croissance Plus, qui parle assez cash, et Vincent Charlet, délégué général de la Fabrique de l'Industrie. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'Orage. On se retrouve demain à 8h15, et puis dans l'Orage, bien sûr, 12h-13h. Bonne journée.